Aujourd'hui, mon invité est cet homme robuste qui garde les traces de la vie dans chacune de ses réponses. Cet homme à la voix grave, parfois usée, mais au regard encore enfant à l'image de Depardieu et Jean Gabin. Ces derniers, qui ont d'ailleurs interprété Maigret, le collègue fictif du personnage créé par mon invité, le commissaire Merle. Aujourd'hui, il a joué le jeu de se livrer, sur sa vie, sa jeunesse, parler de lui, chose rare pour un romancier qui préfère transmettre les émotions au travers de ses écrits et à travers ses personnages. Ses personnages, justement, est-ce que ce ne sont pas une partie de lui-même, un miroir de ce qu'il est vraiment ? À travers cet entretien, je vous propose de découvrir ensemble qui est le deuxième invité de Parlez-moi de vous, qui est Michel Benoît. Bonjour Michel Benoît.
Bonjour.
À l'heure où nous enregistrons cet entretien, nous sommes à 58 jours de vos 66 ans. C'est le 25 janvier.
Eh ben oui.
Je vous propose qu'on revienne.
Ça me fait drôle là.
C'est vrai.
Ce que vous me dites là, ouais, vous m'avez surpris là.
Première phrase, paf.
Je commence à coûter plus cher en bougie qu'en gâteau.
Il va falloir prendre une grosse respiration pour.
Il va falloir que je prenne du top 7 là, ouais.
Les 66 d'un coup. Moi, je vous propose qu'on revienne ensemble sur ces 66 ans, presque. Entre livres, essais, chroniques, théâtre et même chansons. On parlera tout à l'heure évidemment de vos polars, qui êtes-vous Merle et Rendez-vous avec Merle, entre autres. Mais pour commencer, l'enquêteur c'est moi, j'ai rendez-vous avec Michel Benoît pour savoir qui êtes-vous Michel Benoît. Vous acceptez ou pas ?
Bah oui,
on y va ?
Ça y est.
Michel Benoît c'est un Parisien, jusqu'à ses 25 ans. Vous vivez à Paris.
Ouais.
Vous avez fait votre enfance et votre scolarité là-bas. Quel rapport avec le monde de la culture vous aviez depuis enfant ?
Eh bien, j'avais un grand-père qui était musicien, donc c'était sa profession. J'avais un oncle qui faisait du cinéma, un autre qui était caméraman, un père.
Ils en vivaient ?
Ah oui, bien sûr, ouais. C'était leur métier. Et puis j'avais un père, par contre, qui était passionné par la peinture et qui faisait des tableaux, et ma mère par la poésie, qui écrivait beaucoup de poèmes.
Vous voilà. Êtes né dans une famille d'artistes.
Ouais, si on peut dire, oui.
Vous avez toujours baigné dans l'univers dans lequel maintenant vous évoluez, les livres, la peinture, la sculpture aussi même.
Aussi, un peu, ouais. Ouais, bien sûr.
Déjà enfant, vous aviez une imagination, vous créez déjà des histoires.
Ben oui, parce qu'en fait, quand on passe sa jeunesse, dans des HLM, en banlieue parisienne, à l'époque, je parle dans les années 60.
Ce qui n'était pas les banlieues de maintenant, mais...
Non, mais par contre, bon, c'était du tout béton, quoi. Hein.
Ouais.
Et donc, il fallait quand même avoir de l'imagination, quoi, pour s'évader. Hein. Donc, en fait, on jouait avec n'importe quoi, dans sa tête. On se faisait pirate, on se faisait cow-boy, on se faisait tout ce qu'on voulait, quoi. Avec trois fois rien, mais un élastique et une boîte à chaussures, ça faisait l'affaire, quoi.
Commissaire Merle, déjà même, aussi? Enfant.
Ouais, un petit peu, oui, un petit peu. Bah, disons que j'ai eu la chance de temps en temps, comme je disais, je baignais un peu là-dedans. Donc, j'avais un oncle qui faisait du cinéma, donc il m'a emmené quelques fois avec lui dans les studios de cinéma à Boulogne. Et donc, j'avais affaire à des gens qui m'ont un peu éveillé à ce niveau-là, quoi. Bon, je fais un petit rôle aussi comme ça de temps en temps. C'est l'époque où on avait besoin d'un jeune, d'un enfant pour les besoins du tournage. Et puis on le prenait, on faisait pas de contrat, quoi. Je veux dire, on s'embarrassait pas. Bon, voilà, c'est ça. On lui filait des bonbons et puis.
La juridique était bien différente que
maintenant. Ouais, tout à fait. Puis tout le monde était content. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est pas. Et donc tout ça, ça a participé aussi. C'est à l'éveil de l'imagination.
Est-ce que justement ces souvenirs d'enfant, vous les retranscrivez encore maintenant dans certains de vos romans, dans tout ce que vous avez pu, même la chanson, on en écoutera tout à l'heure. Ouais, est-ce que c'est des souvenirs d'enfant qui vous servent encore maintenant ?
Bien sûr, on n'abandonne pas sa jeunesse. Elle nous suit jusqu'au bout. Donc en fait, et plus je crois que plus on avance dans le temps et plus on se rapproche d'elle. Et ce que vous me dites, c'est assez bizarre parce que j'ai écrit des paroles d'une chanson il y a pas longtemps qui s'appelle Quand j'étais petit et où j'évoque un petit peu ce que j'ai vécu quand j'étais tout petit quoi, enfin petit enfant jusqu'à 10 ans, 15 ans.
Le bon comme le mauvais.
Ouais, enfin donc j'ai préféré parler du bon parce que le mauvais, bon ben on le connaît le mauvais, on l'a tous vécu. Je pense qu'aujourd'hui, bon ça fait du bien aussi de parler du bon.
Du meilleur.
Ouais.
Quel est le premier livre que vous avez lu ?
Le premier livre que j'ai dû lire, c'était un livre de Dumas. C'est pareil, c'est lié aussi, c'est au côté familial, puisque mon oncle, je vous l'ai dit, était comédien. Et le premier livre que j'ai lu, c'est Le Chevalier de Maison Rouge, de Dumas. Parce que, justement, il avait tourné dans ce téléfilm, avec Michel Leroyer et Dominique Paturel. C'est un téléfilm qui se passait, enfin, c'est une histoire qui se déroule pendant la Révolution française. Et c'est le premier que j'ai lu, quoi. Voilà.
Vous avez après entamé un parcours scolaire qui est relativement normal, dans le commerce. Quel élève il était, le petit Michel, à l'école ?
J'étais un bon élève, mais j'étais un très bon élève. Mais par contre, on a divorcé rapidement avec l'éducation nationale. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on ne se comprenait pas.
Est-ce que c'est un petit peu l'image de tous ces artistes qui sont plutôt bons élèves, mais qui ne se sentent pas à l'aise ou qui ne se sentent pas à leur place dans une salle de classe.
Ouais, c'est ça. Ouais, disons que on m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place très rapidement. C'est-à-dire, je vous donne juste un exemple très très rapide. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Comment vous dire. Et l'institutrice de l'époque, j'avais donc 8-9 ans à peu près, avait demandé aux élèves de la classe de faire en une heure une rédaction, comme on faisait à l'époque, une rédaction sur l'automne. Et donc j'avais fait cette rédaction-là, mais je l'avais fait en alexandrin. À 8-9 ans, quoi. Bon, parce que bon, j'avais l'habitude d'écrire comme ça. Alors, je dis pas que c'était des vers extraordinaires, c'était pas Corneille.
Oui, évidemment.
Mais bon, c'était d'Alexandrin. Donc, j'ai fait deux pages d'Alexandrin en une heure sur le thème. Et quand j'ai rendu ma copie, bon, j'attendais par la suite, on attendait la note, quoi, évidemment. Et elle m'a collé zéro.
Vous avez pris un hors sujet.
Ouais, elle m'a collé zéro parce que j'étais hors sujet. Donc, en fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, on n'est pas fait pour s'entendre, on se comprendra jamais. Et donc, voilà, quoi. Donc, en fait.
Il y a bien un domaine où vous comprenez très bien, c'est l'histoire. Vous êtes vite passionné d'histoire et notamment la Révolution française. Et vous suivez en candidat libre des cours d'histoire à la faculté de Vincennes. Qu'est-ce qui vous passionnait tant dans l'histoire ?
Plusieurs choses déjà. Je pense que c'est une période qui est extrêmement riche, puisque tous les jours il se passait énormément de choses chaque jour. Donc c'est d'une richesse incroyable. Et puis en plus de ça, c'est vrai que on n'en a pas fini avec la Révolution française, ni avec même avec l'exécution de Louis XVI, puisqu'en fait on le voit bien encore aujourd'hui. On est dans la même, on est exactement dans le même schéma que sous la Révolution française, avec les mêmes partis politiques, même s'ils s'appellent plus de la même façon, mais c'est toujours la même chose, on n'est pas sorti de ça.
À l'heure actuelle, on est encore en révolution, un petit peu ?
En révolution, non, parce que je pense que la révolution aujourd'hui, ça est, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien, moi. Je sais pas. On a de la révolution générale, on est passé de la révolution intérieure à un moment donné, puisque il fallait changer soi-même avant de vouloir changer les autres.
On est plus en révolte qu'en révolution.
Comme disait John Lennon. C'est ça. On est en révolte permanente, mais je pense que ça, c'est nous qui sommes comme ça. Et c'est très bien d'ailleurs que le français porte cette chose-là, puisque il le porte pour le monde entier, quoi.
Et puis, vous arrivez à vos 25 ans, et c'est là que vous quittez Paris, et vous voyagez, ensuite, partout en France, plusieurs endroits en France, pour raisons professionnelles essentiellement ?
Oui, oui, tout à fait, oui. Bah oui, parce qu'il fallait bien manger, hein, donc, une période. J'ai été musicien pendant. Bah, je suis toujours musicien, mais j'ai appris la musique très jeune, avec un grand-père qui était musicien. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer à droite à gauche, même au Golfe de Rouault, etc. quoi. Donc à l'époque, c'était quand même des scènes qui étaient réputées. Et puis, à un moment donné, bah, il a fallu penser à manger, quoi, parce que bon, parce que ça nourrissait pas son âme. Donc, comme je savais pas trop quoi faire, vu les expériences,
Il voulait faire quoi, le petit Michel, à l'époque? C'était quoi son métier de rêve? Il savait pas?
Je savais pas trop, non, je savais pas, non. Non, j'avais des idées comme ça, j'aurais bien... Ça tournait toujours autour de l'écriture, hein, journaliste, ou... Voilà, c'était ça. C'était ça. Et puis, donc je suis rentré dans une banque, voilà, rien d'original, qui n'avait rien à voir avec avec les désirs que je pouvais avoir, puisque s'il y a une chose que je déteste le plus, c'est bien l'argent. Donc, j'ai vécu avec l'argent pendant des années.
C'est comme le boucher qui mange pas de viande.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc, j'ai vécu avec l'argent des autres pendant des années. Bon, c'était à l'époque où l'ascenseur social, il fonctionnait bien.
Ouais.
Donc, en fait, c'est peut-être pour ça que j'y suis resté aussi.
C'était dans les bonnes années.
Ouais, c'est ça. Donc, je suis rentré, j'ouvrais les armoires, je fermais les armoires. Et puis, je suis sorti, j'étais directeur... directeur général des agences, quoi. Donc voilà. Bon, mais on le ferait plus aujourd'hui. On verra plus ça. Du moins dans les années qui viennent, on verra plus jamais ça. Mais bon, voilà, quoi. Ça m'a permis de. Mais bon, à côté de ça, il fallait quand même, malgré tout, que je puisse avoir un échappatoire. Et il était hors de question que je me contente de ça. Donc je continuais d'écrire. Voilà.
Justement, vous voyagez donc, comme je le disais, dans les Ardennes, dans l'Aisne, le Cher, la Côte d'Or et bien sûr la Nièvre. Vous êtes partout, il se dit que partout où vous passez, vous êtes poursuivi par les révolutionnaires. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire simplement, c'est que il y a des coïncidences, il y a des similitudes, il y a des régions. Où, à chaque fois que je suis tombé dans une région, je trouvais plusieurs personnes ou des lieux qui étaient historiquement attachés à la Révolution française, quoi. Voilà, donc ça m'a permis en même temps, c'est de fouiller les archives et puis de mettre à jour des personnages qui n'étaient pas forcément les plus connus, mais qui étaient très intéressants.
À l'image des révolutionnaires ardennais, par exemple.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qui vous passionne chez ces révolutionnaires-là?
Ils ont tous un destin identique, et puis, si je peux dire, pour la grande majorité, ils sont tombés dans la marmite de la Révolution avec un malentendu. C'est-à-dire que, bon, vous savez, vous connaissez l'histoire d'Adolf Hitler, par exemple, qui voulait être peintre, hein, on lui a refusé l'ouverture de l'école. De peintre en Autriche, et suite à ça, je veux dire, bon, il en a toujours voulu, non seulement aux peintres, mais aussi aux élus, au gouvernement, etc., qui étaient en charge de la culture. Et on peut penser que s'il avait été peintre, il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait.
Il n'aurait peut-être pas fait tout ça, oui.
Et donc, ces gens-là, c'est la même chose. C'est la même chose, ils ont tous un destin
brisé,
très bizarre. Et à un moment donné, il y a un déclic qui s'est passé et ils se sont retrouvés. Voilà.
Et partout où vous passez, que ce soit dans toutes les régions, vous accompagnez un ouvrage justement sur ce thème-là.
Ouais, bah j'ai essayé, oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire profiter tout le monde un petit peu des recherches que j'avais faites à cette époque-là, quoi. Disons que j'écrivais uniquement pour l'histoire. Voilà.
Et vous êtes, comme je le disais, toujours suivi par l'histoire, par ces révolutionnaires, mais par des thèmes historiques, pardon, en continuité, tout le temps. Votre tout premier essai historique, il date de 2001, sur l'évasion de Louis XVII, et vous faites partie du cercle historique, justement, sur ce thème-là.
Bah oui, parce qu'en fait, je me suis rapproché d'associations qui étaient concernées par ce thème. De la survivance de Louis XVII, parce qu'en fait ils connaissaient, ils avaient eu accès aussi à des archives que moi je ne connaissais pas. Et je me suis vite rendu compte d'ailleurs à ce sujet-là que vous savez, il y a énormément d'associations historiques, et concernant ce genre de thème, il y avait évidemment les associations royalistes, on est une, l'association royaliste, et il y a des associations qui sont républicaines. Elles ont toutes les deux des renseignements, des archives, etc., qui sont très très intéressantes sur le sujet, mais comme elles ne peuvent pas s'entendre, et comme elles n'ont aucun contact les unes avec les autres, elles n'ont jamais rapproché leurs archives. Or, moi, j'ai rapproché une partie des archives des uns et des autres, ce qui fait qu'en fait, j'ai découvert des choses qui n'avaient jamais été mises à jour, puisqu'en fait, par déduction, avec la preuve des jours, etc., des lieux, bah, j'ai trouvé des choses qu'eux n'avaient jamais pu mettre à jour.
C'est au-delà d'un simple regard sur les archives, il y a aussi une vraie recherche derrière.
Bah, une vraie recherche, bien sûr. Et puis une synthèse aussi que j'ai fait sur les archives qui avaient été faites de droite et de gauche, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui me paraissait intéressant, c'est ça aussi surtout, c'est de pouvoir unir un petit peu tout ça, toutes ces choses-là, pour pouvoir en déduire de nouvelles choses.
Quoi. Et de mettre votre patte.
Ouais, tout à fait. Ça. Bah oui, bien sûr.
Michel Benoît, vous êtes aussi un homme de théâtre.
Oui.
Quel lien vous avez avec le théâtre?
Bah le lien, le théâtre, c'est magique, hein, quand même. Bon,
c'est complètement différent, ouais, des romans, des essais qu'on peut faire. Et il y a toujours ce lien historique, on va revenir dessus juste
aussi,
après.
Ouais, ouais.
Mais c'est un travail qui est quand même complètement différent, même dans l'écriture déjà.
Bien sûr. Bien sûr, dans l'écriture, c'est complètement différent. Le dialogue a travaillé énormément, puisqu'en fait, le théâtre, c'est du dialogue. Et c'est vrai que pour moi ça a été magique, je veux dire, d'apercevoir des personnages que j'avais créés dont je m'étais servi, qui étaient là debout sur la scène, quoi. C'est quand même formidable, quoi, je veux dire, alors que dans un roman, bon, ils sont sur le papier, mais ils sont pas en train de bouger. Mmh. Alors que là, je les fais parler.
Mettre un visuel, une image sur un personnage imaginaire.
Complètement, je suis un peu le Gepetto, quoi. C'est ça qui me passionne dans le théâtre.
Comment il est venu le théâtre, justement, dans votre carrière?
Ah bah, par hasard. J'avais écrit un livre, donc un ouvrage historique sur Saint-Just. J'habitais Decize à l'époque, j'ai habité un an et demi à peu près Decize, et j'avais écrit Le dernier jour de Saint-Just. J'ai été contacté par un auteur de théâtre qui habitait à l'époque l'Orme, qui s'appelle Pascal Tédès, qui avait créé donc la compagnie du Carambole. Mmh. Et bon, bah, on en a parlé, etc. Puis on a commencé à écrire une pièce de théâtre, voilà.
Le théâtre, c'est trois pièces, hein, je crois, dans votre vie.
Tout à fait, oui.
Qui ont toujours un lien historique.
Alors, il y a une
historique.
Pièce. Oui, tout à fait. Donc, la première pièce, j'étais consultant. J'ai écrit beaucoup pour aider l'écriture du théâtre, hein, de la pièce. J'ai été, bon, j'étais consultant historique.
Le peuple des ronces, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Mais bon, disons que l'écriture par elle-même, c'est Pascal Tédès qui l'a faite. Par contre, les deux autres, c'est moi. Voilà.
Et la dernière, c'est donc Saint-Just, c'est ça?
La dernière,
elle date de 2017.
C'est D'entre les morts. C'est-à-dire que je mets en scène, c'était une vieille idée qu'on avait eue avec Tédès, d'ailleurs c'est eux qui la jouent. On avait imaginé, comme ça, après un beau repas, Saint-Just et Robespierre qui se retrouvaient après avoir été guillotinés, et dans un endroit, cet endroit-là, je l'ai situé dans un hall de gare, avec des trains qui arrivent et des trains qui repartent. Mmh. On sait pas pour où, on sait pas d'où ils viennent. Mmh. Et qui refont un peu leur histoire, quoi, qui en profitent avant de prendre le train, quoi. Mais bon, voilà, c'est...
Et vous l'avez joué, cette scène, cette pièce de théâtre-là, au Théâtre des Forges, c'est ça?
C'est ça, ouais. Donc, en fait, c'est la pièce que j'avais écrite pour le 250e anniversaire de la naissance de Saint-Just à Decize. Voilà, où j'ai organisé trois jours d'événements autour de ça, avec... l'orchestre municipal de Nevers qui était venu jouer des œuvres de Gossec. Il y avait les tambours de la machine qui jouait des morceaux de révolutionnaires, de tambour. Il y avait une conférence, il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu la pièce de théâtre. J'ai peur d'en oublier parce qu'il y a eu beaucoup de choses, quoi.
Mais toujours de la musique présente.
Ah ouais, bien sûr. Bien
et
sûr.
Justement, la musique, ça a une part importante pour vous. On va revenir justement dessus tout à l'heure sur ces chansons que vous avez sorties il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an même. Quand je vous ai demandé, en préparant cette émission, de choisir certaines chansons pour pouvoir passer durant cette émission, vous m'avez proposé Téléphone Hygiaphone. Pourquoi ?
Ouais, ça pourrait paraître un petit peu bizarre par rapport à mon parcours tel que je viens de le décrire. Bah pourquoi ? Simplement parce que je me place en tant qu'auteur et que c'est bon bah dans les années 60 John Lennon avait dit qu'on était tous partis sur un bateau et qu'en haut à la vigie ils étaient en haut et c'était les premiers à avoir crié terre. Bon, c'était une formule imaginaire, mais qui était plaisante pour dire qu'en fait, ça y est, on était arrivé à faire quelque chose de différent, quoi. Eh ben, je pense que début 70, quand j'ai commencé, alors évidemment, je m'inscris complètement dans avec cette période Beatles, Rolling Stone, etc., puisque moi, ça a fait partie de ma culture, hein. Mais quand je me positionne au début des années 70, avec l'arrivée de téléphone, la première fois que j'ai entendu Hygiaphone, je me suis dit, on est arrivé
du
aussi.
Du rock français.
La France est arrivée aussi à la crier terre. Parce qu'en fait, on faisait on reprenait des morceaux anglais avec des paroles qu'on écrivait rapidement en français, mais qui n'étaient pas satisfaisantes. Les terminaisons ne sonnaient pas. En fait, c'était pas bon, quoi.
C'était ni fait ni à faire.
Ah ben ouais, non, mais c'était vraiment pas bon. Et c'est vrai que même musicalement, d'ailleurs, parce que ça sonnait pas, il y avait pas le son anglais, il y avait pas le. Et quand j'ai entendu la première fois Hygiaphone, j'ai écouté les terminaisons des mots à chaque fin de phrase qu'il avait. Il employait donc Aubert, puisque c'est lui qui a écrit la majeure partie des textes. Aubert choisissait en général des mots français avec des terminaisons qui sonnaient en anglais. Par exemple, des in, des on, des bon. Ça a fonctionné au niveau des paroles. Alors évidemment, là, au niveau musical, Hygiaphone, c'est quoi ? C'est du Chuck Berry, hein. C'est pas autre chose. Mais par contre, la sonorité, c'est la sonorité anglaise et non pas française. Donc ça sonne bien aussi.
C'est encore ce que vous écrivez maintenant et ça peut aussi vous inspirer dans la création de certains romans. La musique, ça a une part importante aussi dans la création.
Je n'écris pas un seul livre sans avoir une musique que je me passe en. Bien souvent,
Et ça peut être du rock, comme ça peut être peut-être de la musique symphonique, ça peut aller sur tout bord.
Ça dépend ce que j'écris. Voilà. Ça dépend ce que j'écris. Du rock, je pense pas, parce que j'écris pas des choses qui ont besoin d'une telle force. Mais par contre, je me passe beaucoup de musique classique, de musique de film, du Satie, ça peut être du Schumann, ça peut être. Ça peut être aussi, du but de baccarat, ça peut être plein de choses, quoi. Mais il n'y a pas un livre que j'écris où je me passe pas en boucle, bien souvent, une musique.
On va aller chercher un verre d'eau, on va tout de suite écouter donc Hygiaphone, votre choix, c'est téléphone.
D'accord.
Et puis on va parler après des essais que vous avez faits, on va parler aussi de vos romans, on va sortir un petit peu du côté historique et on va parler de tous les autres projets que vous avez faits durant votre carrière.
Eh ben avec plaisir.
Un petit ticket doré pour aller balader. Parler,
Michel Benoît est mon invité d'en parler, moi, de vous. On a parlé de sa carrière, on a parlé de sa jeunesse, on a parlé de l'école aussi. On va parler maintenant d'autres projets, notamment d'essais. Il y a eu des essais historiques, mais il y a eu d'autres essais aussi, plus personnels, en 2014, en 2015, en 2019. Mmh. Est-ce que ces essais-là, c'est une manière d'écrire aussi pour vous de façon plus intimiste ?
Oui, et puis en fait, ça me permet aussi de dire certaines choses que je ne dis pas dans mes romans, quoi, hein, évidemment. C'est pas facile hein, de faire des essais comme ça, parce que bon, y a une chose qu'on doit absolument respecter, c'est la franchise et l'authenticité, je veux dire, de ce qu'on écrit.
Qu'est-ce qui différencie un essai d'une chronique, d'un texte, d'un roman ?
Eh bien, c'est à mon, enfin, pour moi, c'est la longueur déjà par rapport à la chronique, voilà. Donc, il y a déjà ça. Bon, l'essai par rapport au roman, comme ça s'appelle, un roman, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, un essai, c'est pas imaginaire. Hein. On peut essayer de partir sur des idées, inventer des choses, je veux dire, mais par contre, c'est pas imaginaire non plus, quoi. Voilà, c'est...
Votre tout premier essai, il s'appelle « Mes pensées, mes chagrins, mes coups de gueule ». C'est ouais. Le tout premier. Qu'est-ce qu'il évoque ? Qu'est-ce qu'il évoquait, peut-être, aussi, pour vous ?
Bah, c'est ça, en fait. C'était des morceaux de vie, des passages de... des situations que j'avais notées, voilà, que j'écrivais sur un blog au départ.
Mmh. Et oui, il y avait des chroniques, le blog de Michel Benoît.
Ouais,
ouais. Il est encore actif ce blog ?
Ouais, un petit peu, pas trop, parce que c'est vrai que j'ai pas le temps non plus de l'alimenter comme je voudrais. C'est vrai que bon, à la limite, j'étais un peu méchant de temps en temps quand même. Mais bon.
Avec qui ?
Bon,
avec tout le monde ?
Pas tout le monde, non, mais enfin bon, quand ça me plaisait pas, je le disais, quoi.
Voilà, et avec vous ?
Ah bah avec moi je suis méchant avec moi tous les jours, moi. Donc, non, c'est vrai que bon, moi je me fais pas de cadeaux hein, à ce niveau-là, au niveau de, par exemple de l'écriture de mes romans, je suis toujours dans le doute, hein. Donc je douterai jusqu'au bout d'ailleurs, je suis toujours dans le doute dans le sens où, vous voyez, quand j'ai mes livres qu'on quand même connaissent un succès quand même, qu'ils soient historiques ou dans les romans policiers, je suis toujours étonné, je veux dire, de voir des gens qui viennent me voir pour m'acheter mes livres. Moi, je me dis, mais bon, c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, un livre que j'ai bâti tout seul dans mon coin, j'ai pas besoin de pandémie. Hein, moi, je me confine tout seul comme un grand régulièrement, parce qu'en fait, j'écris toute la journée. Et donc, en fait. Ma vie aujourd'hui au niveau de l'écriture, se résume en deux parties, c'est-à-dire la partie intimiste, l'écriture, où je suis chez moi, j'écris, et puis la partie rencontre, promotion, etc., où là, où je peux retrouver le public et les lecteurs qui viennent me voir.
Mais là aussi vous écrivez inconsciemment, vous retenez certaines rencontres, certains moments qui vous inspirent ensuite pour peut-être des écritures.
Forcément. Si c'est pas pour le prochain, ça sera pour dans 2 ans. On a toujours, il reste toujours quelque chose, je veux dire, qui s'imprime à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est... Il y a toujours une part de nous. Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, dans mes romans policiers, je suis tout à la fois. Hein. Mm. Je suis la concierge, je suis l'assassin, je suis le commissaire, je suis... Parce qu'en fait, je mets du moi dans n'importe quel personnage.
Et vous pouvez être le méchant comme le gentil.
Absolument.
Si vous écriviez vos coups de gueule, vos chagrins et vos pensées de maintenant, est-ce que tout aurait changé par rapport à 2014 ou est-ce qu'il y aurait encore un petit peu de ça ?
Je l'écrirais plus.
Parce que vous avez plus rien à dire ?
Non. Parce que j'ai plus envie. Moi, je suis animé par la passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'écris, je fais de la musique, je fais des chansons, je fais de la peinture de temps en temps, etc. Mais le jour où ça ne m'intéressera plus, j'arrêterai. Je ne vois pas l'intérêt de faire des choses forcées. Je ne suis pas un commerçant. Je suis un artisan de la culture. Voilà, donc le jour où ça m'intéressera plus, j'arrêterai. Et c'est vrai que j'écrirai plus ce genre de choses-là, parce que pas parce que je crois plus en ce que je dis, et parce que je pense justement que ce que je dis n'intéresse pas les gens. Dans le sens où, de toute façon, je suis assez pessimiste sur la question, et je me dis que de toute façon, ça sert à rien de s'agiter, de gesticuler, c'est foutu. Voilà, donc autant partir...
Mais foutu pour foutu.
Ouais, mais foutu pour foutu, mais autant que je consacre le temps qui me reste à écrire des choses, je veux dire, qui peuvent faire rêver les gens, quoi. Voilà. Pour le reste, bon.
Vous dites que quand vous en aurez marre, vous arrêterez. Est-ce que ça arrive des matins où vous préférez aller peindre, d'autres où vous préférez aller écrire, d'autres où vous préférez aller chanter? Et est-ce que ça varie en fonction de votre humeur? Est-ce que vous avez une humeur à écrire, une humeur à peindre, une humeur à chanter?
Je sais pas. Disons que bon, ça c'est conditionné quand même. Par contre, au niveau du temps aussi, parce que bon, j'ai fait de la sculpture un peu. J'ai fait un peu de peinture, je suis obligé de... J'aime bien peindre dehors, j'aime bien sculpter dehors. J'ai pas la place, je veux dire, chez moi pour faire de la sculpture. Il faut une pièce, il faut tout laisser, etc. Alors que j'ai un bureau entouré de livres, je vis avec les livres. Et donc, je peux pas me permettre de faire ça comme ça. Donc, en fait, quand il fait beau, bah, je suis plus tenté de peindre ou de sculpter. Mmh. Mais par contre, pour en ce qui concerne l'écriture, c'est toute l'année, quoi. Voilà. Parce que je suis dans mon élément, du bas au, du plancher au plafond, quel que soit le mur, il y a des livres partout, quoi.
Voilà. On parlait de votre premier essai en 2014. Si on va 4 ans en arrière, on arrive en 2010. À quoi vous fait penser cette date, 2010?
Bah 2010, je pense que ça doit être la création du commissaire Merle, je pense. Hein.
C'est la naissance du commissaire.
Voilà, c'est la naissance, pas la création, parce qu'il a été créé bien avant.
C'est justement, ouais. vous êtes voyant, c'est ma question. Ouais. Est-ce que ce commissaire Merle, il est dans votre tête bien avant 2010?
Oui, oui, bien tout à fait. Au départ, c'était un détective privé. Voilà, c'était. J'ai écrit un truc qui est illisible. Hein. C'était dans les années 97, 96, par là. Et j'avais créé ce personnage-là. Et bon, il s'est caché dans le fond de ma mémoire, quoi. Et puis un jour, je m'étais fait une entorse. Et je venais d'écrire Les grands événements du Nivernais, un livre historique sur l'histoire de la Nièvre au XXe siècle. Et je m'étais fait une entorse, et donc impossible de travailler, je travaillais encore, impossible de monter en voiture, de marcher. Et j'ai un copain qui me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, t'as qu'à écrire un polar. Bah, j'ai dit, sur le coup, ça m'a surpris, parce que je me suis dit, mais on m'avait déjà...
C'est un univers que vous n'aviez jamais trop abordé encore.
Jamais. Mais j'avais un éditeur qui m'avait dit, à l'époque, tu devrais écrire des polars déjà. Mm. Il avait senti... que j'avais certainement la faculté de le faire, la possibilité de le faire. Et donc, voilà, et donc j'ai écrit le premier polar, le premier roman policier plutôt, qui se passait à Decize en fait, c'était La Belle Marinière. Voilà. Et ça s'est fait comme ça.
Qu'est-ce qu'il a de ressemblant avec vous, Augustin Merle?
Absolument rien. Je pense pas. Je pense pas, mais bon, je pense que si on creuse, on va trouver. Bon, en fait, Merle, c'est un homme qui est... Alors, il était marié, donc avec une femme qui avait la maladie d'Alzheimer, qui sera hospitalisée à la Charité, qui va décéder au cours d'un roman qui s'appelle L'écluse numéro 47 bis et qui se déroule à Clamcy. Et donc, en fait, il habite rue des Boucheries, à Nevers, une petite rue sympathique. Je peux même vous dire le numéro de la rue, d'ailleurs, et puis vous montrer la fenêtre où de temps en temps on peut l'apercevoir, parce qu'en fait, c'est ça, quoi, il vit. Et il est commissaire de police.
Et c'est quoi ce numéro, alors?
Ah, le numéro, bah, je vous le dis pas.
On doit le deviner.
Il y avait un café avant qui était là, juste à côté. Mais bon, là, l'appartement existe. Et donc, le commissaire Merle, donc, travaille place Guy Coquille, puisqu'en fait, j'ai inventé un commissariat de police qui se trouve sur la place, en pensant que, compte tenu que c'était une place, on pouvait se garer à l'époque, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les romans que j'écris du commissaire Merle se déroulent dans les années 70. Alors, pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, parce que il n'y avait pas de portable et il n'y avait pas d'ADN. Et donc, je voulais absolument, c'est écrire un roman policier à l'ancienne.
Et est-ce que c'est aussi un petit peu parce que vous êtes nostalgique de cette époque?
Ouais, c'est une époque que j'aime bien, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, j'aime bien cette époque-là. Voilà, donc en fait, et donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est une synthèse Merle, une synthèse de Maigret et d'Hercule Poirot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en fait, ils ressemblent ni à l'un ni à l'autre. Mais c'est un peu cette synthèse que j'ai voulu faire. Donc depuis, bah, ça fonctionne puisque j'ai écrit un roman, le dernier vient de sortir. Et voilà quoi.
Et dans vos romans du commissaire Merle, dans toutes les enquêtes du commissaire Merle, il y a toujours une mise en avant aussi d'un lieu, d'un paysage et d'une région.
Bah oui, parce que je situe toujours dans un endroit bien précis quoi. En fait, je le mets en scène dans la Nièvre principalement. Il y a que deux romans dans lesquels il va s'expatrier. Le premier, c'est un des derniers que j'ai écrit, c'est Crime à la Baule. Et puis l'autre, c'est Crime au but de Chaumont, puisqu'il se déroule sur Paris. Et pour la première fois, enfin c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à Simonon, Merle est appelé pour remplacer le patron du 36 Quai des Orfèvres. Et il va s'installer dans le fauteuil de Maigret au bureau 101 de la Crime.
Est-ce qu'il a de la concurrence avec Eton Blimiek?
Aucune. Mais par contre, il y a des gens.
Expliquer qui c'est.
Alors Eton Blimiek, déjà, bon, pour commencer, c'est mon anagramme. Voilà. Et donc, c'est un détective privé, qui était un ancien flic du 36, qui a des orfèvres, et qui s'est mal entendu avec sa hiérarchie, à un moment donné où un de ses collègues se fait descendre par un truand. Et il supporte pas, je veux dire, la décision hiérarchique, et il démissionne, et il va ouvrir son commissaire, rien faire d'autre, évidemment, et ben, il va ouvrir un cabinet de détective privé. Alors, comme détective privé, il va lui arriver un tas de choses, quoi. Il va avoir un tas d'enquêtes sur le dos, et non, il n'y a pas de rapport entre les deux, sinon que... Avec Merle, on est plus dans une atmosphère Simenon, quoi, je veux dire. On est dans le terroir, on a les pieds dans la terre. Alors que Blimec, il est en ville. Voilà. Donc il y a une grosse différence entre les deux, quoi.
Lequel des deux serait le plus apte à être adapté au cinéma?
Les deux. Tout dépend sous quel angle. Tout dépend ce qu'on a envie de faire, quoi. Tout dépend ce qu'on a envie de faire, mais en tout cas, les deux sont adaptables. Ouais.
Et quel acteur vous aimeriez voir en Merle?
Alors, il y a un acteur que j'aurais aimé voir pour Merle, mais son nom m'échappe.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai reçu pour Le Train des Livres, pour cet événement Varine Vauzelle.
Tout à fait, ouais.
On a parlé un petit peu de ça, de Merle et compagnie, et quelques jours après, j'ai vu Maigret avec Depardieu,
ouais,
qui est sorti au cinéma. Alors, bien, pas bien, si on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, moi je me suis dit que Depardieu en Merle, bah, ça collerait peut-être. Parce que ça rejoint aussi un petit peu ce côté terroir que vous vendez.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il faut que... Merle, c'est quelqu'un de lourd, c'est quelqu'un de pesant, c'est quelqu'un
robuste.
C'est un homme des bois.
Est-ce que c'est peut-être un petit peu ça qu'il a en
lien? Il a des mains de paysan. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien d'injurieux de ce que je suis en train de dire. Mais il a des mains, je veux dire, il n'a pas des mains d'artiste. Il a des bonnes mains, il a un pas qui est assez ferme. Quand il va quelque part, il a un regard, je veux dire, pesant sur les choses. Mais ça n'empêche pas la finesse qu'il peut avoir aussi. Je veux dire, bon, voilà. Donc en fait, oui, effectivement, il faut quelqu'un de bah, qui représente un peu ça, quoi. Voilà, c'est...
Vous y avez déjà pensé au cinéma?
Ouais. Oui, j'y pense parce que, bon, bah, parce que c'est, à mon avis, c'est la suite logique.
Vous, en tant qu'acteur, ou mettre quelque chose en place pour le cinéma, mais de votre création?
Non, pas en tant qu'acteur, non, je suis pas comédien. Chacun son boulot, je veux dire, non. Non, mais en tant que scénariste, oui. Et c'est vrai que je pense que c'est la suite logique qui pourrait arriver, qui pourrait m'arriver de mieux d'ailleurs, parce que au même titre que le théâtre, je verrais Merle qui bouge. Voilà, hein, donc
ce serait Merle. Ma réponse est Merle. Donc
bah oui, bah voilà, c'est un peu ça, oui, parce que bon, l'autre est un peu jeune quand même. Bon, c'est vrai
qu'il a pas assez de vécu.
Non, il a pas assez de vécu, et puis c'est vrai que c'est aussi, je veux dire, je veux pas dire que c'est un pari avec mon éditrice de l'époque qui m'avait demandé ça, mais elle m'avait dit quand je lui avais proposé Tom Blimey, je lui avais dit, je l'ai conçu comme une série télévisée. Et pour vous montrer que c'est, je l'ai conçu comme une série télévisée, j'ai demandé à un ami, donc qui est musicien, qui habite dans la Nièvre, de me faire une musique de générique. Et c'est Alban Bouquette qui avait fait la musique de générique, une super musique. Et comme ça se passe aussi dans les années 70, il m'a fait un truc à la Shaft qui est génial. Bon. Et qui durait pas plus de 2 minutes, enfin bon. Et elle m'a dit, après avoir lu le premier, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'en faire un deuxième, là? Bah, j'ai dit oui. Je lui en fais un deuxième. Un mois et demi après, elle reçoit le deuxième. Et elle me dit, il faudra en faire un tous les 3 mois. Bah, j'ai dit oui, on va en faire un tous les 3 mois. Et j'en ai fait 5, 6 même. Pendant la pandémie, quoi, pendant cette période-là à peu près.
Il y a combien d'enquêtes de Merle là, à l'heure actuelle ?
Alors, c'est le livre qui vient de sortir.
C'est le 15e, non ?
C'est le 20e.
20e, pardon. Ah.
C'est le 20e, ouais. 20e Merle, voilà. Hein, c'est Crime en Haut-Nivernais.
Il est disponible partout.
Ouais.
Petit instant promo.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Le cinéma, donc, c'est un des supports sur lequel vous n'avez pas encore été présent, mais peut-être que ça viendra. Justement, les supports, vous en connaissez plein, et puis il y a la musique aussi, justement, c'est une des dernières créations de votre part.
Ouais, disons que non, pour moi, la musique, écrire des chansons, c'est pas nouveau, hein, j'écris des chansons.
Ça a commencé par la poésie, je crois.
Non, oui, quand j'étais vraiment jeune, mais quand je dis jeune, c'est quand j'avais 10 ans, mais sinon, non, des chansons, j'en écris depuis que j'ai l'âge de 16 ans, hein. Avec des hauts et des bas, c'est en fonction, faut être dedans, quoi, pour écrire. Là, j'ai écrit une trentaine de chansons en un an. Il y en a une dizaine qui ont été mises en musique par un ami de longue date. On s'est connus, on avait une vingtaine d'années. Et donc, on travaille à distance ensemble. Lui, il habite un petit peu à côté de Montargis. Et il se trouve que bon, c'est un musicien chevronné, puisque il a travaillé dans des grands studios, etc. Il s'appelle Michel Naroun, et il a vraiment beaucoup de talent. Et je lui envoie mes paroles. Il a un choix donc d'une trentaine ou une quarantaine de textes, et on travaille ensemble comme ça depuis un an, et on a écrit 10 chansons, voilà.
Qui sont disponibles.
Alors actuellement, on peut les écouter sur YouTube, voilà. Donc il suffit de taper Michel Naroun, et puis c'est sur sa page YouTube. Et voilà, donc c'est du plaisir. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on est passionné, il faut le faire.
Avant de revenir justement sur cette musique, on va en écouter même d'ailleurs un extrait. Vous avez obtenu le premier prix de la poésie de la Société des artistes de France en 2021.
C'est le président départemental, un copain, Michel Potier, qui m'avait dit « J'aimerais bien que tu viennes, que tu participes. » Voilà. Bon, les concours, c'est pas mon truc. Mais bon, pour lui faire plaisir, je l'ai fait. Et puis, il se trouve que pour la première fois que je le faisais, j'ai gagné le concours.
Ça représente pas spécialement...
C'est une satisfaction, quand même. Ouais, si, moi, je veux pas... Je veux pas dire que je suis pas satisfait de ça, mais bon, voilà, c'est la poésie, vous savez, est-ce que ça peut s'enfermer dans un concours ? J'en sais rien, en fait.
Et donc c'est la même année que ce projet avec Michel Naroun est né, donc,
voilà.
Avec certaines musiques. On va écouter tout de suite, si tu le veux, qu'est-ce qu'elle raconte, cette musique ?
Ah, c'est une chanson, je veux dire que j'ai écrit cette chanson-là, imaginez-vous... un samedi soir à 3h du matin, à la sortie d'une boîte de jazz. Voilà. Bon, il y a plus rien qui va, quoi. Vous avez plus la tête, vous avez vidé la moitié de la bouteille de whisky. Voilà. Et donc, elle raconte ça. Elle raconte la vie d'un loser, quoi. Voilà.
On l'écoute tout de suite et puis on se retrouve juste après.
D'accord.
Comme dans ses rêves qui rendent heureux, comme le souffle d'un vent géant. Un jour viendra, si tu le veux, comme un simple matin de printemps. Comme si hier n'avait été qu'une parenthèse apprivoisée, comme si l'aurore n'était pas née, partie l'hiver, venue l'été. Un jour viendra. Dans le désert ou sous la pluie, si tu es là, je serai là pour le plus beau jour de ta vie. Comme pour l'année de nos 15 ans. Un jour viendra. Dans le désert ou sous la pluie, si tu es là, je serai là pour le plus beau jour de ta vie. Un jour viendra. Ou dans tes yeux, si tu le veux. Un jour viendra. Si tu le veux, je serai là.
C'est vrai. C'est vrai qu'on fumait dans le café à l'époque.
Ouais, ouais.
On parlait bistrot avec Michel Benoît. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on vient d'écouter déjà un titre de Michel Benoît, écrit par Michel Benoît, qui est disponible sur YouTube, on le rappelle. Et on parlait bistrot. Pourquoi on parlait bistrot? Parce qu'il y a les nouvelles du bistrot d'en bas. C'est une observation de ce qui se passe dans un bistrot, c'est des citations peut-être plus ou moins inventées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, s'il vous plaît? Parce que moi, quand j'ai travaillé sur cette interview, sur cet entretien, pardon, ça m'a attiré l'œil, ce fameux bistrot.
Oui, alors disons que avant de prendre mon travail, j'avais l'habitude d'aller boire mon petit café dans un bistrot qui était juste à côté, où je travaillais. Il se trouve que là, le matin, je veux dire, à 8h moins le quart, 8h du matin, il y a toujours des gens, je veux dire, qui sont au comptoir et qui commencent à commenter l'actualité de la veille ou celle du jour. Voilà. Et donc, en fait, il y a toujours ces espèces de gens qui sont haut levés et qui vont faire des déclarations, bien souvent, à mourir de rire. Mais ils le font pas exprès, hein, bien souvent. Et donc, j'ai écouté pendant un petit moment ce genre de choses-là, puis après je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je les note, parce que c'est quand même quelque chose de... Et donc, en fait, quand j'en ai eu assez, comme ça, pour pouvoir les ajouter les unes aux autres, j'ai créé donc ces nouvelles du bistrot d'en bas, parce que je pensais que, justement, c'était marrant, quoi, je veux dire, de... Alors il y a des trucs là-dedans, je me souviens plus exactement, mais il y a vraiment des citations mais qui sont véridiques, hein, que j'ai entendues vraiment, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que...
Ça peut aller de la politique à la voisine d'en face, en passant par le maire et par le commerçant qui est fermé.
Complètement, ouais. Mais c'est l'école de la vie, hein, ça, le bistrot. C'est l'école de la vie parce que on voit tout là, on voit toutes sortes de gens. Des bons, des pas bons, des gentils, des méchants, des jaloux, des...
Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un tenancier de bistrot, c'est la personne qui peut le mieux parler de la société?
C'est un curé. Un tenancier de bistrot, c'est comme un curé. C'est-à-dire qu'il entend tout, normalement, il dit rien. Voilà. Mais il entend tout. Et en fait, quand on a un problème, avant on allait voir un curé, aujourd'hui, moins en moins, parce qu'il y a moins en moins de bistrot, mais... On en parlait au patron du bistrot, quoi, parce qu'en buvant un verre, ça met en confiance et on raconte ses problèmes. Voilà.
Vous y allez encore au bistrot?
Non, j'y vais pas. Mais j'aime bien aller boire un petit café comme ça de temps en temps. J'aime bien cette ambiance de bistrot.
Justement, comment se déroule une journée de Michel Benoît, une journée type? Où est-ce qu'il y en a une déjà? Où est-ce qu'elles sont toutes différentes?
Non, elles sont différentes, ça dépend des moments. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la partie un petit peu intimiste où j'écris. Et là, je commence à écrire, il est 9h du matin et j'arrête à 7h30 du soir. Voilà. Mais sinon, quand je suis dans les salons du livre ou dans les librairies, c'est un peu différent quand même.
Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie?
Non, j'ai pas de regrets. Non, parce qu'en fait, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets dans
quelque
le sens
chose que vous n'avez peut-être pas eu le courage de faire et que vous dites, j'aurais peut-être dû me lancer.
Vous savez, on fait ce qu'on peut, je veux dire, dans la vie, en fait. Hein, on n'est pas des super-hommes. Non, j'ai pas de regrets parce que quand j'ai eu des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau personnel ou par exemple avec le monde de l'édition, où j'ai un caractère qui fait que je rebondis toujours.
Est-ce que c'est écrire justement qui vous a toujours fait rebondir?
Ouais.
Ou peindre?
Ouais.
Ou chanter?
Mais bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui me tient, bien sûr.
Aller écrire, pour vous, c'est un peu une séance de psy aussi?
Non, j'irai pas jusque-là, parce que mais par contre, c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même, parce que quand on écrit, on se livre forcément soi-même, même inconsciemment.
Moi, je trouve que comment vous définissez Merle, par exemple, vous m'avez dit qu'il vous ressemblait pas, il avait rien à voir avec vous. Moi, je trouve que finalement, il a un petit peu à voir avec vous, quand même.
Il y a des gens qui me le disent, oui.
Moi, je trouve.
Ouais, c'est possible. Ouais.
Pour finir cet entretien, je vous propose un jeu. Mm-hmm. On va faire un Shifumi. Non, je déconne. À la radio, ça n'a pas de sens. Non, je vous propose un jeu. Est-ce que vous regardiez, à l'époque, Thé ou Café? À la télévision.
Je sais plus.
Est-ce que vous connaissez le dos à dos?
Non, je connais pas.
Deux personnes dos à dos, des questions brèves et des réponses rapides.
D'accord.
On va pas se mettre dos à dos parce que ça a aucun intérêt.
Ouais,
mais par contre, on reste dans l'idée de questions brèves et de réponses rapides.
D'accord.
Vous êtes prêts?
On va essayer. Ouais.
Michel Benoît, votre auteur préféré?
Victor Hugo.
Votre livre de chevet?
Compliqué. Là. J'en ai tellement.
Joker?
Ouais.
Votre plus grande peur?
Ne pas savoir.
Votre film préféré?
Mon film préféré, je dirais, il était une fois en Amérique.
La dernière fois que vous avez ri?
Bah avec vous tout à l'heure.
Votre enquête de Merle préférée?
La dernière.
Votre rêve le plus fou?
Eh bien, bah que Merle soit transcrit au cinéma, voilà.
Votre chanson préférée?
Oh, ça sera une chanson des Beatles.
Et enfin, ma dernière question, Michel Benoît, pour clôturer cet entretien, votre mot préféré?
Je sais pas, franchement. C'est peut-être ça, d'ailleurs, je sais pas.
C'est voilà. Une réponse, et je la prends. Merci beaucoup.
Parce qu'on sait jamais, en fait. Voilà.
On sait pas tout.
Voilà.
Merci beaucoup, Michel Benoît.
Et c'est moi qui vous remercie.
D'avoir accepté cet entretien. Merci.
Vous m'avez mis à nu, mais moi... mais la tâche n'était pas facile, c'est sûr.
Merci beaucoup.
Merci.